toujours le moment à 10h où arrivent vraiment les passionnés sur des conférences comme celle-ci. En général, ceux et celles qui souhaitent vraiment entendre et écouter, et éventuellement dans la dernière partie de cette rencontre, poser quelques questions, ce qui sera possible, je pense, d'ici à peu près une petite demi-heure, une fois qu'on aura épuisé un petit peu le sujet. Alors, la première chose qu'on va faire tout simplement, c'est demander à Marion Hendrick de se présenter brièvement. Je précise qu'elle est médecin, ça me paraît important de le dire, donc elle est soignante. En tout cas, c'est ce que normalement est un médecin, un soignant. Et par ailleurs, elle a évidemment fait des études de psychologie, de psychiatrie.
Voilà. De psychiatrie.
Voilà. Et vous savez, tout le monde ne le sait pas, entre le psychanalyste et le psychiatre, la différence fondamentale, c'est que le psychiatre est médecin, docteur en médecine, ce qui n'empêche pas que certains psychiatres font aussi des psychanalyses. C'est une autre question. Pourquoi j'ai demandé à Marion Hendrick de venir à ces imaginales? Pas nécessairement parce que j'avais besoin d'une consultation, en tout cas je ne l'aurais pas faite en public, mais tout simplement parce que j'avais entendu parler de son petit traité d'horreur fantastique. Et on m'en avait dit du bien, alors au départ, j'ai regardé un petit traité d'horreur fantastique à l'usage des adultes qui soignent des ados. Et puis je me suis dit, il y a une part d'humour quand même dans le titre, ce qui déjà est quand même bon signe pour un soignant en général et un psychiatre en particulier. Et donc je me suis dit, tiens, quelqu'un qui travaille dans une science quand même parfois qui peut poser débat, vous savez très bien que la psychiatrie pose toujours la question de est-ce que le psychiatre est soignant ou est-ce qu'il est un garde-fou, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui maintient l'ordre et l'ordre social, et y compris l'ordre parfois d'une société qui peut être remise en cause et critiquée. On sait très bien, je ne reprends pas l'histoire, que la science, science humaine, science avec ses limites, qu'est la psychiatrie, a pu servir à libérer, à aider, elle a pu aussi servir à réprimer et enfermer des gens qui auraient peut-être eu besoin d'un accompagnement et d'une compréhension. Mais une fois les choses dites, donc vous avez bien compris que je n'étais pas nécessairement bienveillante par rapport à la corporation, mais pour des raisons que vous devinez, je fais moi-même l'effort de ne jamais stigmatiser une communauté. Donc je me suis dit, ayant aussi quelques amitiés dans cette corporation, que peut-être quelqu'un qui faisait profession d'être psychiatre pouvait avoir une vision ouverte, et je me suis dit, quelqu'un qui s'intéresse à l'imaginaire ne peut pas être tout à fait mauvais. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai souhaité inviter Marion Hendrick, et quand j'ai commencé à lire son ouvrage, je me suis dit, ah oui, ça pourrait peut-être faire réfléchir un certain nombre de ses collègues, peut-être un peu plus fermés au dialogue avec les adolescents. Je pense que ça peut faire un vrai terrain d'entente avec les adolescents. Et puis, de temps en temps, ça peut permettre aussi à bousculer les parents, à leur dire « mais non, ce que lisent vos enfants, c'est pas ça qui est inquiétant ». Alors Marion Hendrick, avant qu'on ne démarre un peu cette rencontre, que je commence à vous poser quelques questions, que je lise quelques extraits au public pour vous donner envie, peut-être en deux mots, vous présenter brièvement et expliquer à nos festivaliers pourquoi vous qui êtes engagé dans la médecine, dans le soin, vous avez eu envie d'écrire ce petit traité d'horreur fantastique. Pourquoi ça vous intéresse, ces histoires de monstres ?
Voilà, bah merci déjà de m'avoir invité. C'est très très agréable pour moi d'être dans une manifestation qui ne soit pas que psychiatrique, avec des psychiatres partout. Donc je suis ravie d'être là. Donc pourquoi j'ai eu l'envie d'écrire ce livre? Bon, au départ c'était mon sujet de thèse, mais c'est un sujet de thèse que j'ai porté, enfin quand j'étais en terminale déjà j'avais envie d'écrire quelque chose sur l'imaginaire, sur Stephen King éventuellement, voilà. Bon, alors finalement j'ai fait médecine. Et pour moi, c'était un univers, bon, parce que pour moi, c'était important de soigner. Enfin, c'était vraiment ça mon but. Et je suis passée par hasard en psychiatrie, et là, j'ai eu le coup de foudre parce que j'ai rencontré des gens qui justement, vraiment rencontraient les patients pour une fois dans leur globalité et pas par organe, comme on pouvait le voir dans les autres spécialités. Alors bien sûr, faut le faire. Hein, la technicité, enfin la technique que nous permet la médecine, est bien entendu bienvenue. Mais moi, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Et donc je me suis lancée dans la psychiatrie et j'ai commencé à me spécialiser dans les soins aux adolescents. Et là, j'étais vraiment très surprise de constater la différence qu'il pouvait y avoir entre les adolescents que je soignais et par exemple mon petit frère qui avait à peu près le même âge, et mon petit frère qui pour moi respirait la bonne santé, et ces adolescents-là. Et je me souvenais aussi de ma propre adolescence. Et alors, ce que je constatais, c'est que les adolescents que je soignais n'avaient absolument pas accès au monde imaginaire. C'est-à-dire qu'ils ne lisaient aucun roman ou s'il lisait, c'était une littérature vraiment très aseptisée, où il n'y avait pas de violence, où il n'y avait pas de mise en danger avec des personnages étranges, etc. Ou alors il ne lisait pas du tout. Enfin, voilà. Alors on se dit, bon, les adolescents ne lisent plus, mais ils ne voyaient pas non plus de films. Le cinéma, le cinéma d'horreur, etc., leur était aussi inaccessible. Donc c'est cette différence que j'ai voulu étudier. C'est comme ça que... Alors je ne sais pas si je développe...
Non, je crois que ça nous fait déjà une bonne introduction. Et comme toujours, j'aime bien quand on reçoit un ou plusieurs invités, chercher quelques extraits. Alors j'ai commencé par la préface. Donc on ne va pas rentrer dans le vif du sujet tout à fait, puisque c'est le préfacier qui parle du travail de Marion Hendrick. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'à l'évidence, il n'est pas de la même génération, je ne pense pas me tromper.
Non.
Et à l'évidence, il a dû au début être un peu bousculé. On sent un début de conversion, c'est toujours extrêmement intéressant.
C'est le professeur de Lyon qui est un éminent pédopsychiatre, professeur de médecine.
Et qui visiblement a fait une partie du chemin et en tout cas est intéressé, le dit, c'est ouais. Oui. Aussi, lorsque j'ai découvert le travail de Marion Hendrick, ai-je eu la même sensation de me retrouver dans une inquiétante étrangeté, mais avec les mêmes effets pourvoyeurs de sens à propos des problèmes posés. Entre le déjà rencontré, et donc familier, mais soigneusement oublié, toujours angoissant. Il y a en effet toute une ouverture possible pour revisiter la psychopathologie de l'adolescence, non seulement en soi, même si Marion nous dit qu'il faut travailler pour en retrouver les traces fugitives, mais surtout en résonance avec le développement du bébé, visiteur de l'incontournable archaïque. Et les adolescents qui viennent nous voir pour trouver avec nous des solutions de sortie pour leurs angoisses spécifiques ne peuvent que bénéficier des inventions de Marion Hendrick. Les accueillir dans la terre du milieu, sorte de remake tolkienien de l'espace transitionnel de Winnicott. Alors, peut-être en deux mots pour que les non-spécialistes, Winnicott est l'objet transactionnel en deux mots.
L'objet transitionnel. L'idée pour Winnicott, c'est qu'au départ, alors, on va déjà avec l'adolescence. L'adolescence, on va changer de corps, on va changer de lien avec la famille, donc on va devoir se réapproprier un corps et un environnement. Donc l'idée, c'est que on va devoir repasser par ce qu'a pu vivre le petit bébé, qui lui aussi a dû s'approprier un corps et a dû s'approprier des relations avec son environnement. Donc pour Winnicott, le bébé et la mère, au départ, ne font qu'un. En fait, j'irais même plus loin, le bébé et l'environnement ne fait qu'un. Quand un bébé naît, il ne sait pas qu'il existe. Il ne sait pas qu'il existe. Il croit que le monde est là. Il a faim, il ne sait même pas ce que c'est que la faim. On lui colle un biberon ou le sein. Pour lui, c'est normal. Enfin, il ne se demande pas si on va lui donner ou pas. Ça, c'est. Voilà. Donc au départ, c'est comme s'il y avait une fusion, une indistinction. C'est pour ça que Winnicott disait que le bébé n'existe pas. En fait, il voulait dire que le bébé n'existe pas en dehors des soins maternels. Vous laissez un bébé tout seul, il meurt, effectivement. Petit à petit, va se créer ce que Winnicott appelle l'espace transitionnel, c'est-à-dire un lieu d'échange avec la mère, un lieu de jeu, hein, qui est souvent symbolisé par le doudou, qui va permettre... En fait, c'est un lieu où n'est pas remis en question « est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est à moi ? Est-ce que c'est à toi ?» C'est encore un lieu protégé au moment où le bébé commence à se rendre compte que sa mère, en fait, c'est pas lui, et que peut-être que le biberon, elle va pas lui donner. Et ça, c'est un peu inquiétant pour lui. Et du coup, cet espace transitionnel est un lieu de protection, voilà, où ça ne va pas être remis en question. Est-ce que c'est à toi ou est-ce que c'est à moi ? Et cet espace transitionnel, par la suite, va s'enrichir jusqu'à donner, va s'enrichir avec les contes. Hein. Un conte, c'est aussi ça, c'est est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à toi ? Est-ce que tu me le donnes ou est-ce que ça existait déjà en moi avant que tu me le racontes ? Voilà, vous voyez ? Donc, Ça va perdurer toute la vie et c'est ce qui va donner l'appétence pour la culture, les arts, éventuellement la religion, etc. Hein, un espace où c'est pas remis en question. Est-ce que c'est à toi ou est-ce que c'est à moi ? Donc l'horreur fantastique, hein, et les mondes imaginaires me paraissent vraiment être les successeurs de cet espace transitionnel du petit, les successeurs de ce doudou.
Petite précision, Marion Hendrick est une passionnée de littérature d'imaginaire. Quant à l'emploi de termes fantastiques, les puristes pourront sursauter parce que elle ratisse plus large, on le verra tout à l'heure. Elle dit fantastique au sens non pas précis de Todorov et des spécialistes du fantastique, mais bien au sens large, on pourrait prendre le mot imaginaire comme synonyme. Il s'agit bien évidemment du fantastique escalité, mais aussi de la fantasy et même de la science-fiction, puisqu'elle l'aborde à plusieurs reprises. Donc, petite précision, donc pour qu'on se comprenne bien. Je commencerai par l'introduction, et ce qui m'a aussi plu dans votre ouvrage, c'est que, contrairement à un certain nombre d'universitaires et de psy, vous dites, pas tout le livre bien sûr, mais dans l'introduction vous dites « je ». Il n'y a pas très longtemps, j'ai retrouvé le journal que je tenais quand j'avais 14 ans. Un petit journal, rose, épais, fatigué, rempli de coupures de journaux et de photos. En l'ouvrant, j'ai eu le sentiment d'ouvrir le journal d'une autre, le journal de quelqu'un qui n'existe plus, qui n'est plus moi en tout cas, re-rencontrer l'ado qu'on a été. J'ai été très surprise, peut-être déçue, de constater que je parlais très peu de moi, de mes proches, de ma vie réelle, de mes petits soucis. Je ne pense même pas que je mentionne mes parents. Non, dans ces pages, les livres, les films qui me passionnaient à l'époque apparaissent plus réels, plus proches et chargés de sens que les événements de ma vie. Critique d'un film, enthousiasme pour un roman, poème recopié et du fantastique à chaque page. Mes projets d'avenir, chassés du démon, comme une Van Helsing en jupon, sans y croire vraiment. Et pourtant, le point fort de cette année-là, l'été de mes 14 ans, était en voyage en Écosse, sur les bords du Loch Ness. Monstre, y es-tu ? Finalement, si j'y songe, je n'ai pas été loin de réaliser mes projets adolescents. J'ai bien chassé du monstre ces dernières années, sauf qu'il ne se cachait pas dans les profonds lacs écossais, ni dans les cimes inaccessibles. Et contrairement aux idées reçues, je suis persuadé qu'ils ne sont pas tapis au fond du cœur des hommes. Non, en fait, les monstres se situent depuis toujours dans cette partie de notre vie qui donne à tout le reste sa saveur, cet entre-deux magique qui n'est pas tout à fait soi, mais qui n'est pas tout à fait autre, et qui s'est construit progressivement à partir des histoires, des transmissions et des jeux de notre enfance. C'est là, baignant dans l'océan mythique alimenté par la culture que nous partageons tous, que croissent, vivent et meurent les monstres les plus effrayants qui soient. Pourtant, si à 14 ans je rêvais de les pourchasser, aujourd'hui, quel aveu, j'ai une tendresse immense pour eux. Alors, pourquoi vous aimez tant les monstres, Marion Hendrick ?
C'est vrai que le retour que j'ai fait sur mon adolescence m'a permis de voir à quel point ils avaient été importants dans mon histoire. Il y a même des amis qui me disent mais moi je me souviens, tu avais toujours un bouquin de Stephen King à la main. Et effectivement, je me souviens que je me cramponnais parfois à ça dans les moments un peu compliqués. Voilà. Alors actuellement, pourquoi j'aime les monstres actuellement ? Parce que je me suis rendu compte que mes ados malades, eux, au lieu de les vivre dans cet espace transitionnel, moi j'appelle ça la Terre du Milieu, un peu en référence à Tolkien, la Terre du Milieu, au lieu de les vivre là, enfin, ou de les appréhender là, de les combattre là, ils les combattent alors dans le réel, c'est-à-dire il est sur leur corps, sur voilà les mutilations que je peux voir, l'anorexie mentale, voilà beaucoup, les toxicomanies, tout ce qu'on peut voir, c'est comme s'ils s'étaient trompés de cible et au lieu de mener leur combat, qui est un combat probablement nécessaire, qui pour beaucoup de gens s'est bien passé parce que justement ça s'est fait dans cette terre du milieu, pas forcément dans l'imaginaire, hein, y a plein d'autres manières de... Enfin, le sport, enfin, y a plein d'autres manières d'appréhender son agressivité ou sa culpabilité, qui est normale, de manière tout à fait épanouie. Et ben eux, au lieu de le faire dans cet espace-là, ils le font dans le réel, en se faisant du mal à eux-mêmes ou à leurs proches. Et ça, c'est vraiment pour ça que je pense que ces figures de monstres sont extrêmement importantes. Et donc tout mon travail, ça a été de réfléchir à déjà pourquoi c'est important, en quoi ça peut aider, et après à la fin du livre, c'est un petit peu comment l'utiliser en thérapeutique. Enfin, est-ce qu'on peut aider, apporter du monstre finalement à nos adolescents ?
Vous allez inquiéter les parents, je le sens, Marie Hendrick. Est-ce que vous êtes bien responsable pour une soignante ? On va voir ça. Prérequis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être faudrait-il définir ce qu'est l'horreur fantastique. Mais cet ouvrage n'est pas un essai littéraire, et je laisse volontiers à d'autres le soin de le codifier et de le distinguer d'autres genres comme le gothique, le récit noir, le fantastique ou l'horreur pure, avec toutes les difficultés que cela comporte. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les récits qui parlent de choses auxquelles nous ne croyons pas, mais qui nous font peur, à la manière de la marquise du Deffand, qui disait ne pas croire aux fantômes tout en les craignant. C'est pourquoi les puristes ne devront pas s'offusquer, quand parfois je sortirais de ma bibliothèque telle ou telle vieille histoire qui pourrait paraître à première vue hors sujet, car ce sont vraiment ces deux éléments qui guideront mes choix. L'irruption de l'irréel dans le réel et l'objectif assumé de l'œuvre de provoquer la peur. De nos jours, le public visé par ces récits est généralement la tranche d'âge des 13-25 ans. Le succès de la collection Chair de poule en France, destinée aux jeunes adolescents, édité par Bayard Poche, le triomphe de Twilight, Meyer, 2005, et la persistance étonnante d'un public pour la saga cinématographique Halloween, le numéro 12 est sorti en 2010, sont là pour en témoigner. Stephen King reste un des auteurs les plus lus dans le monde, et les séries télévisées destinées aux adolescents et mettant en scène le surnaturel sont nombreuses. X-Files, Carter, Buffy contre les vampires, Well Done, Charmed, Dead Zone, The Vampire Diaries, Once Upon a Time, American Horror Story, The Secret Circle, etc. C'est comme si l'intérêt pour ce genre se situait quasi exclusivement à cette période de la vie, puis était abandonné progressivement et presque sans regret à l'âge adulte. L'horreur fantastique est par ailleurs violemment attaquée par l'adulte, par ce mot j'entends parents, enseignants, politiques, intelligentsia en place, considéré souvent comme un sous-genre littéraire, particulièrement en France. Les histoires de vampires, ce n'est pas sérieux. Considéré comme morbide, il est régulièrement mis à l'index dans la presse pour avoir inspiré, entre guillemets, tel ou tel fait divers. Alors, est-ce que, finalement, vous êtes bien responsable? Vous savez bien que les jeux de rôle, les films d'horreur, c'est bien ça qui provoque les crimes que tous ces adolescents rêvent de faire et nous sommes tous menacés, Marion Hendrick, non?
Bah, je crois qu'ici, j'ai besoin de convaincre personne. Dans d'autres endroits, c'est plus compliqué. Non, vraiment, là encore récemment, on m'a demandé de faire... un topo sur la violence au cinéma, par exemple. Je crois qu'au contraire, penser que l'adolescence est un, voilà, que l'adolescence est comme un fleuve tranquille, où l'adolescence, il n'est pas confronté à la violence, n'aurait aucun sentiment de violence, enfin, ou aucune culpabilité, etc., à grandir, c'est, je pense que c'est réellement un leurre. Être adolescent, c'est compliqué. On peut très bien le vivre, ne jamais se rendre compte de cela, sauf peut-être en analyse justement, mais devenir adulte est quelque chose d'extrêmement compliqué et un certain nombre de deuils doit être fait, doit être réalisé. Déjà, on change de corps. Changer de corps, mine de rien, c'est pas si évident que ça. Il faut se réapproprier un corps qui va avoir de nouvelles fonctions. Alors, si vous voulez, en psychanalyse, on pense qu'il y a des tabous fondateurs. Les tabous fondateurs, globalement, c'est tu ne mangeras pas autrui. C'est vrai que c'est bien pour une société. Tu ne tueras pas et globalement, tu ne commettras pas l'inceste. Hein, on peut, en faisant court, c'est vraiment les trois tabous fondateurs. Bah, jusqu'à l'adolescence, mine de rien, ces trois tabous, ok, c'est dit. Bien entendu, c'est pas dit comme ça, mais c'est vécu comme ça, c'est dit comme ça. Mais de toute façon, le corps de l'enfant ne permet pas de le réaliser. La force physique est minime, il n'est pas mature sexuellement. À l'adolescence, tous ces tabous vont en fait pouvoir se réaliser. Ça devient quelque chose qui doit être dit dans la parole pour ne pas être réalisé. Mais objectivement, la force physique et la maturité sexuelle font que ces tabous pourraient être transgressés. Ça, c'est extrêmement inquiétant pour un adolescent, encore une fois, pas forcément consciemment, mais être trop près des parents, par exemple, ou pouvoir expérimenter cette force physique qui augmente et on ne sait pas où elle va s'arrêter. La question de l'adolescent inconsciente, c'est est-ce que je ne suis pas un monstre? Est-ce que ma violence, j'en fais quoi, hein? Puis en devenant adulte, on pousse un peu les parents vers la tombe aussi, hein. Faut voir la. Enfin voilà. Donc il y a aussi la culpabilité de ne plus être l'enfant qui faisait que le parent était encore. Enfin, on va faire changer les gens de génération en grandissant. Et ça vraiment en clinique, on voit vraiment que peut y avoir des difficultés pour un adolescent à se rendre compte que il va pousser ses parents. Alors c'est que la vie pousse ses parents vers la mort et que. Il s'en sent responsable. Et ça, on le voit vraiment très fort en clinique. Et je pense que les livres ne font que finalement mettre en scène quelque chose qui est très intimement ancré dans l'adolescent et que c'est pas ça qui va rendre violent. Au contraire, ça peut donner des solutions. Un peu comme, alors je sais pas si vous connaissez Bettelheim, qui était un psychanalyste américain, qui lui a beaucoup parlé du conte de fées et qui l'avait vraiment défini comme quelque chose qui pouvait aider le tout petit enfant à pouvoir vivre ses premières angoisses archaïques, à les mettre en scène. Alors je vous donnerai qu'un exemple, par exemple, Hansel et Gretel, la maison de pain d'épices. On peut tout à fait voir la maison de pain d'épices comme quelque chose de très maternel, parce que voilà, c'est quelque chose qui protège et qui nourrit. Bien sûr, la maison commence toujours par protéger et nourrir, et dans un deuxième temps, par contre, il y a la loi du talion, là, voilà, si je t'ai mangé, comme le petit enfant peut penser qu'il a mangé sa mère, si je t'ai protégé, est-ce que tu peux aussi arrêter, voire même faire le contraire, me manger, comme l'ogresse, et me détruire ? Heureusement, bien entendu, le conte Hansel et Gretel donne la réponse. C'est-à-dire, bah, un jour, tu partiras de la maison, tu quitteras ta mère et tu iras voir dans le monde ce qui pourra se trouver et tu pourras faire ta vie. Avec l'aide d'ailleurs de père, ta sœur, ou voilà. On voit bien que dans l'horreur fantastique, par exemple, vous prenez la maison hantée, c'est exactement le même sujet. Un groupe de jeunes se perd, a besoin d'un refuge, trouve un refuge. D'ailleurs, souvent dans les maisons hantées, au départ, il y a de la nourriture, etc. Et dans un deuxième temps, la maison se retourne contre les occupants. Et comment on fait pour s'en sortir d'une maison hantée ? Eh bien, il faut s'en aller. Il faut quitter les jupons de la mer. Donc, voilà, ça permet de donner des réponses inconscientes à certains conflits que peut vivre l'adolescent.
J'ai trouvé d'abord une petite citation de Stephen King, quand même, notre inspirateur à tous. Et puis, un petit tableau tout à fait intéressant. Je vous montrerai quelques exemples. Citation de Stephen King. J'aime beaucoup, dit Marion Hendricks, cette définition de Stephen King de l'horreur. C'est une danse des rêves. C'est une façon de réveiller l'enfant qui sommeille en vous, un enfant qui n'est pas mort, mais qui dort profondément. Si l'histoire d'horreur est une répétition de notre mort, alors sa morale stricte en fait aussi une réaffirmation de la vie, de la bonne volonté et tout simplement de l'imagination, un conduit vers l'infini. King, 1981. Le petit tableau, Marion Hendricks a pris l'analyse de les personnages et leurs fonctions selon les critères de Prop. C'est un russe, si je me rappelle bien.
Oui.
C'est ça. Et donc un spécialiste du conte et qui vraiment a écrit des choses tout à fait passionnantes. Même quand on n'est pas spécialiste, on est étonné de la puissance de sa pensée. Et c'est pas par hasard que tout le monde s'y réfère, même quand on a peu de connaissances sur ces domaines. Alors, elle a donc, Marion Hendricks, pris Carrie, le roman et film ensuite adapté de Stephen King, et elle l'a comparé à Cendrillon. Alors, au début, on se dit, c'est un peu tiré par les cheveux, et on regarde, ça fonctionne extraordinairement bien, et un homme comme King, qui connaît visiblement extrêmement bien la littérature et les contes de fées, je pense qu'il n'est pas du tout étranger à ces correspondances, c'est pas par hasard. Séquence dans Carrie 16 ans, ses premières règles. Bon, selon Props, il s'agit du héros qui commet une transgression. Volontaire ou pas, peu importe, c'est une transgression. Séquence de Cendrillon et la belle-fille non désirée. On prend un autre point, un bal est donné et Carrie voudrait bien y aller. C'est le bal d'année, de fin d'année des lycéens, hein, cher aux États-Unis. Le manque, selon Props, le héros veut quelque chose. Ça donne quoi dans Cendrillon ? Un bal est donné, Cendrillon voudrait bien y aller, vous vous rappelez, le bal du château. Dans Carrie, interdiction d'y aller par sa mère. C'est ce que Prop qualifie d'interdiction par l'agresseur. Ben, ça donne interdiction d'y aller par la belle-mère, la marâtre, dans Cendrillon. Dans Carrie, une nouvelle amie l'aide à y aller, lui prête son petit ami. C'est ce qu'on appelle, selon la caractérisation de Prop, auxiliaire et donatrice. Sa marraine, dans Cendrillon, la bonne fée, lui permet d'y aller en la transformant en belle princesse. Elle lui prête un carrosse. Je ne vais pas vous faire, là j'ai fait presque la moitié du tableau, vous le découvrirez dans le livre. Mais elle a été très honnête, c'est aussi ce que j'apprécie. Elle montre que, il y a une séquence où il n'y a pas de correspondance. Eh oui, ça peut arriver, en effet, ce n'est pas un simple décalque de l'histoire de Cendrillon. Le génie de King est quand même capable de trouver des choses novatrices et nouvelles. Voilà, mais c'est quand même très intéressant et de voir que c'est pas du tout tiré par les cheveux, mais que ça fonctionne vraiment terme à terme, et qu'il y a donc bien des structures narratives qui, dans l'histoire de la littérature et sans doute dans notre inconscient, se retrouvent quelque part dans ces œuvres. Je passe très vite, et j'en arrive à Bienvenue dans l'horreur. Petit extrait, là aussi. « Il est temps de nous pencher un peu plus sur ces grandes figures de l'horreur, afin de déterminer ce qu'elles sont susceptibles d'ordonner et les vécus dont elles seraient les représentations. Pour cela, j'ai choisi 5 grands archétypes de l'horreur dont chacun nous accompagnera un moment dans notre voyage au travers du processus adolescent. Le vampire, la maison hantée, le loup-garou, la jeune fille et la chose sans nom qui prendra la forme de la créature de Frankenstein. Ces figures et ces monstres font partie intégrante de notre culture moderne et même si nous n'avons pas forcément lu ou vu d'œuvres les mettant en scène, nous les connaissons bien. Ils ont rejoint la Terre du Milieu, une sorte de monde imaginaire accessible et connu de tous et où chacun peut puiser à volonté. Une ère intermédiaire d'expérience. C'est ce monde-là, merveilleusement sombre, humide et sanguinolent, que je vous propose d'explorer une torche à la main. Alors suivez-moi, faites attention à votre tête en passant les portes et protégez vos carotides, parce qu'on ne sait jamais, vous pourriez tomber sur votre pire cauchemar au détour d'une page, vous, à 14 ans. Vous voyez aussi le ton, c'est à la fois très sérieux, et il y a aussi ce ton, cette légèreté, c'est là aussi une des choses qui fait que ce traité, qui aurait pu être totalement rébarbatif, est plein d'enthousiasme, et quelque part, c'est peut-être effrayant, mais on sent encore quelque part, par bribes, l'adolescente qu'a dû être Marion Hendrick. Quand vous écrivez ce livre-là, vous êtes la professionnelle, la docteure en médecine, la soignante, ou est-ce que vous êtes encore l'adolescente passionnée, et puis l'adulte qui s'est construit à partir de ces histoires, un peu des deux ?
Oui, un peu des deux. Après, c'est vrai que dans mon métier, moi j'essaye de mettre beaucoup d'humour, d'une manière générale, parce que, bon, c'est pas un métier facile, hein, quand même. Et que l'humour est thérapeutique. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Il y a des fois où on sait qu'on a gagné quand on voit un de nos patients être capable de nouveau sourire à un jeu de mots. Donc je crois que ça fait partie de ma manière d'être aussi dans mon métier en fait. Même dans les cours, parce que j'enseigne aussi à la faculté libre de médecine de Lille, même dans mes cours, j'essaye de mettre de l'humour de manière modérée, bien sûr, pour soutenir la tension, mais aussi parce que, voilà, quand on est en train de parler de choses extrêmement sérieuses et parfois douloureuses, voilà, il y a aussi une manière de se protéger, je pense. Mais aussi de pouvoir voir du coup les choses en face. Enfin, c'est ce que je dis dans le livre, hein, vraiment aussi mes monstres. Enfin, voilà. C'est aussi une manière pour moi de pouvoir mettre en mots des choses qui sinon bloquent la pensée. C'est vrai que quand nous on voit on voit parfois des situations vraiment très difficiles qui pourraient nous empêcher de penser. Pouvoir le remettre dans un contexte dire et si on était parfois ça m'arrive de faire ça en synthèse avec mon équipe et je dis enfin bon et si on comprend rien on est figé par rapport à une situation qui nous submerge aussi parce que on est humain voilà et je dis bon et si on était dans un roman si on était dans un autre monde ça serait quoi on serait face à quoi. Et c'est vrai que ça peut être très utile. Alors, c'est pas dire qu'un patient est un monstre, jamais. Mais que ce qu'il ressent ou ce qu'il vit est de l'ordre, parfois, du même type de violence. Ça nous permet de se remettre à penser et de pouvoir aider la personne. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a ce va-et-vient aussi dans ce roman. Et c'est pas que pendant l'écriture du roman que je me positionne comme ça, en fait.
Autre petit extrait, on va quand même aborder le vampire. L'engouement actuel pour les vampires est facilement explicable. Être sensuel, libéré des contraintes et tabous, marginal, dans l'ombre d'une société éclaboussée de transparence, le vampire ne peut que fasciner notre société. Dans les années 1980, les personnages d'Anne Rice, Entretien avec un vampire, étaient devenus des icônes gays, représentation d'un certain monde de la nuit en plein bouleversement en raison de l'épidémie du virus du sida, ressenti comme, entre guillemets, une malédiction mortelle, pesant sur toute relation homosexuelle. S'adressant aux adolescents, une série télévisuelle leur est consacrée à la fin des années 90, qui durera 7 saisons. Buffy contre les vampires de Joss Whedon, sorte de parodie des films d'horreur, où les fantasmes adolescents sont mis en scène, avec bonheur et hémoglobine, et où l'expression « le lycée c'est l'enfer » est prise au sens littéral. Je passerai le reste, parce qu'il y a plein d'autres choses à découvrir. Je reprends très brièvement sur Entretien avec un vampire, Anne Rice, qui a été quand même une rupture intéressante dans le thème du vampire et quelque chose d'extrêmement fort. Et je précise pour ceux qui ne le sauraient pas, puisque c'est public aujourd'hui, donc c'est pas du tout tabou, je n'oute pas la personne, elle a fait son outing. Christopher, le fils d'Anne Rice, a fait son coming out, il est gay. Et sa mère qui s'était convertie, qui n'était pas croyante au départ, qui est toujours croyante et le dit, s'est convertie au catholicisme. Le petit souci qu'elle a eu quand son fils Christopher a fait son coming out, c'est que les stigmatisations, et on vient ces derniers mois de le voir en France par l'Église catholique, d'une façon d'être et d'une façon de vivre, ont évidemment posé une certaine contradiction dans le cœur d'Anne Rice. Et du coup, Anne Rice a quitté l'Église catholique en disant « je garde la foi, mais je quitte une Église qui stigmatise mon fils » et plein d'autres. Donc je trouve que c'est intéressant de montrer comme le vampire est lié à la sexualité. En l'occurrence, on peut se demander d'ailleurs si inconsciemment, dans son œuvre, en mettant en scène ces vampires gays, est-ce qu'Anne Rice n'avait pas perçu de façon intuitive ce qu'elle a su après quand son fils lui a posé des questions ? On peut refaire, on peut s'interroger, parce que quand même, c'est assez surprenant qu'elle, qui n'y était visiblement pas préparée, a traité immédiatement ce thème alors qu'à l'époque, elle ne savait pas, en tout cas officiellement, que son fils était gay, il ne l'avait pas dit. Donc voilà, petite parallèle, j'ai échangé quelques mails l'année dernière avec elle, j'ai eu cette chance, et j'espère que dans les années à venir, je touche du bois comme on dit, elle acceptera, elle qui se déplace si peu en Europe, de venir, en tout cas ce serait avec beaucoup de bonheur qu'on l'inviterait, parce que c'est vraiment quelqu'un, un grand écrivain et quelqu'un qui a renouvelé le thème du vampire. Buffy contre les vampires, je ne l'ai pas signalé là, c'est la seule critique que je vais vous faire, parce que franchement j'ai adoré le bouquin, c'est là aussi quelque chose qui a beaucoup, je l'ai vu, frappé les adolescents. J'ai regardé l'été, pas cet été mais l'été d'avant, l'intégrale de la série, je crois que c'est 157 épisodes ou 149, hein, c'est énorme, et je me suis fait l'intégrale, voilà, pour voir y compris l'évolution de la série. Or, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui, maintenant, ont une trentaine d'années, qui étaient adolescents à cette époque, et qui ont pu regarder Buffy contre les vampires parce que les parents ricanaient en disant « qu'est-ce que ces histoires de vampires ridicules ?» Du coup, ils n'ont pas regardé. Et du coup, ils ont laissé leurs enfants regarder. Et je pense à des familles, là aussi, catholiques très intégristes, qui ont laissé leurs enfants regarder. Or, l'une des personnages principales avec Buffy, une des meilleures amies de Buffy, la sorcière, Tara, et Willow, surtout, se rend compte qu'en fait, c'est pas les garçons son truc et qu'elle aime les filles. Et évidemment, pour un certain nombre de jeunes lesbiennes de cette génération, ça a été la découverte de ce que ça pouvait être alors qu'elles n'avaient pas compris encore ce qu'elles étaient. Donc la littérature fantastique, les parents n'ont pas tort, c'est dangereux. Voilà, petite précision, mais là aussi, le vampire et cette catégorie a un rapport direct avec le sang, la sexualité, la transgression. Enfin, on est au cœur quand même des questions de la vie, du désir.
Bah, c'est vraiment l'une des... Alors, c'est beaucoup moins présent dans le conte, par exemple. C'est vrai qu'à l'adolescence, va y avoir donc la génitalité et toutes les pulsions génitales qui vont déborder l'adolescent même au départ. Donc il faut bien voir qu'avant, l'enfant était beaucoup moins soumis à ce type de pulsions. Donc il va devoir apprendre à les gérer, donc à se reconstruire en construisant des digues qui vont pouvoir contenir ces pulsions génitales. Et c'est vrai qu'il va reconstruire même les histoires de son enfance, mais maintenant il ne pourra que regarder, et c'est notre lot à tous, hein, que regarder les choses à travers le prisme de la génitalité. Et c'est vrai que du coup, dans l'horreur fantastique, et j'essaye de le montrer avec les deux parties que je peux faire, il y a en même temps des choses qui sont mises en scène d'angoisse très très archaïque du tout petit bébé, c'est-à-dire comment on s'approprie un corps, comment on gère son oralité, c'est-à-dire sa propension à vouloir prendre et s'approprier, etc. Donc des choses vraiment du bébé. Et c'est teinté toujours de génitalité, parce que... voilà, on n'est plus dans le même corps, maintenant la génitalité est vraiment présente et il va falloir tout teindre de cette génitalité. Et c'est vrai que dans le vampire, on le voit très bien, le vampire, bah voilà, ça va bien entendu traiter de l'oralité, hein, le vampire, on ne sait pas ce qu'il a en dessous de la ceinture, donc ça va bien entendu parler d'oralité, mais d'oralité sensuelle. Voilà, donc c'est comment aborder se prendre ce cannibalisme presque, il ne faut pas le prendre au sens propre, ça peut être, on peut très bien être, comment dire, avoir une relation d'ordre cannibalique avec quelqu'un sans le manger. Enfin, je pense que vous voyez ce que je. Enfin voilà, bon, y a le terme il me vampirise, ou voilà, et en même temps avoir érotisé ce rapport. Voilà, donc c'est vrai que le mythe du vampire permet tout à fait cela.
Vampire tout puissant, immortel et pourtant un simple pieu dans le cœur, ça y est, c'est terminé. Contradiction quand même intéressante qu'on pourrait creuser, mais j'ai passé assez vite. Petite citation dans le chapitre de l'archaïque, quatre lignes. Les vampires n'aiment pas le soleil, c'est bien connu, en tout cas jusqu'à Twilight. Les vampires n'aiment pas le soleil, c'est bien connu. À un enfant de 5 ans, à qui je demandais pourquoi il dormait la lumière allumée, la réponse teintée d'exaspération fut « Mais tu sais bien que les vampires peuvent pas venir s'il y a la lumière !» Évidemment. C'est vrai, cette anecdote.
Oui, c'est quand j'étais en pédopsychiatrie. J'ai travaillé aussi en pédopsychiatrie avec des tout-petits. Et c'était très amusant. Le rapport déjà qu'ils avaient au monstre était aussi tout à fait intéressant. Il y a plusieurs parce que dans le livre, du coup, il y a aussi des vignettes cliniques. Enfin, ce que nous, on appelle des vignettes cliniques, c'est-à-dire des suivis que j'ai pu faire avec des patients. Alors, c'est modifié pour pas qu'on puisse reconnaître l'enfant en question. Hein. Oui, il y a quelques exemples. Après, vous posiez, c'était sur oui, le vampire, la lumière. Je peux parler juste quelques secondes du vampire.
Bien sûr.
Alors, c'est vrai que le vampire, il est vraiment intéressant comme personnage. Pour moi, c'est vraiment le tout petit bébé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça peut surprendre. Mais il y a plusieurs caractéristiques qui sont pas du hasard. Alors, ça n'a pas été fait exprès, bien entendu, mais comme c'est des mythes qui viennent du fond des âges, progressivement, l'humanité, en racontant ses histoires, a collé au plus proche de ce qui correspond à l'homme, finalement. Alors, pourquoi le vampire est un bébé ? Comme je vous disais tout à l'heure, le bébé, quand il naît, il ne sait pas qu'il existe, il ne sait pas que le monde existe. Il est tout-puissant, du coup, puisque tout est lui. C'est-à-dire que quand le biberon arrive, c'est que il ne voit pas la différence entre lui et autrui. C'est normal que le biberon arrive. Il contrôle presque le biberon, si vous voulez. Voilà. Donc la toute-puissance du vampire, on peut la comprendre comme ça. L'immortalité. L'immortalité, c'est quoi ? Si on le reprend à l'envers, c'est ne pas être inscrit dans la temporalité. C'est être dans le présent absolu. Le petit bébé, on peut imaginer au départ que être inscrit dans le temps et dans l'espace, et ça on le voit parce qu'on a des patients qui justement perdent le temps et l'espace, par exemple des gens qui très mélancoliques, qui vont penser être immortels justement, parce qu'ils n'ont plus la notion du temps, ou alors des gens qui vont perdre la notion de l'espace, bah, par exemple on le peut voir dans l'anorexie où justement les limites du corps sont floues. Donc on peut imaginer que le petit bébé, lui, ne vit pas le temps et l'espace de la même manière que nous. C'est la suite qui va aider. Après, le vampire, il dort dans un cercueil la nuit, il vit la nuit. Ça, on peut aussi imaginer que être dans un cercueil, c'est pas très loin, en fait, de l'utérus. Hein. C'est vrai que, voilà, vous pouvez l'imaginer, c'est un lieu dont la forme peut rappeler celle de l'utérus, c'est matelassé, c'est confortable, voilà, et c'est bien fermé. La peur du soleil peut être vue à ce moment-là comme la peur de naître. Naître, c'est compliqué. Naître, c'est déjà une première castration, c'est déjà une première limitation de la toute-puissance. Il faut couper quelque chose, et il faut au moins téter pour pouvoir vivre. Il y a au moins quelque chose qu'on doit faire. Après, le manque de culpabilité. Hein, c'est vrai qu'un vampire a culpabilisé absolument pas, il prend. C'est vrai que vous prenez un fœtus dans le ventre de sa mère, a priori, il ne se pose pas la question de savoir s'il doit prendre ou pas. Hein. Il prend. Enfin, survie. La culpabilité, c'est quelque chose qui se développe très tard. Hein, c'est vers 2-3 ans. Et on le voit très bien chez les enfants. Hein, ceux qui ont des jeunes enfants peuvent s'en rendre compte. C'est se dire, mince, j'ai pris, mais je dois peut-être donner en retour. Et c'est le petit gamin qui vous donne son biscuit qu'il a déjà à moitié mangé et qui veut à tout prix vous le donner. Et vous voyez bien que si vous le prenez pas, ça va être une catastrophe, quoi. Voilà. Donc, tous ces éléments du vampire, la cape aussi, enfin, voilà, il faut s'en mitoufler, des choses comme ça, rappellent réellement le bébé. Et les manières de tuer un vampire, c'est vraiment des manières de le faire grandir, en fait. Hein. Donc, bah, le soleil naître. Il y a quoi d'autre? Les symboles religieux. J'essaye de montrer que c'est une manière de mettre du père, hein, le nom du père chez les Lacaniens, mais en tout cas une séparation entre le maternel et le bébé. Et alors c'est peut-être un peu plus tiré par les cheveux, mais je pense que le pieu est quelque chose de phallique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans le génital.
Évident.
Les gens me disent toujours, ah, ça c'est tiré par les cheveux.
Pas dans le milieu, dans le milieu du fantasme. Les amateurs voilà. D'imaginaire, on devait être compris depuis un moment, mais on est rassure.
Donc, voilà, c'est à partir du moment où on est dans le génital, on peut plus être dans la toute-puissance et dans l'immortalité.
Ah, ouais. On sait bien que c'est fragile.
Voilà.
La fin de la néotonie et la puberté. Où l'on comprend pourquoi les jeunes filles blondes ne font pas de vieux os dans l'horreur fantastique. Alors là, je vous laisserai découvrir parce qu'on va arriver à la fin de notre entretien. On aura encore passé beaucoup de temps ensemble, mais malheureusement, le timing est ses impératifs. Un autre petit extrait, très 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 vite, parce que je trouve ça aussi intéressant si je le retrouve. On n'aura peut-être pas le temps. Il y avait aussi une référence entre le réel et l'imaginaire, dialogue entre Harry Potter et Dumbledore. C'est aussi un joli moment dont je me souviens dans ma lecture, parce qu'évidemment, j'ai lu les 7 tomes. Au début, j'ai fait sucré, oh, ça doit pas être si terrible si ça marche si bien, un peu. Eh ben non, c'est génial quand même. Bon, ne ratez pas Harry Potter. Ah, 135, j'ai retrouvé. Dites-moi une dernière chose, dit Harry. Est-ce que c'est réel? Ou est-ce que tout cela se passe dans ma tête? Bien sûr que cela se passe dans ta tête, Harry. Mais pourquoi donc cela voudrait-il dire que ce n'est pas réel? Harry Potter, J.K. Rowling, etc. Voilà. Ça, c'est une belle beau résumé d'abord des préoccupations du livre, des rapports entre le soignant et l'adolescent, mais le jeune. Et puis un dernier petit écho, avant qu'on ne doive se quitter. Je vérifie exactement où j'avais choisi le passage. 140. Ce que nous avons dit de l'horreur va tout à fait dans ce sens. L'odeur de soufre qui flotte autour de ce genre, l'opposition entre parents et adolescents, cette découverte du genre par les copains plus que par les parents, la répétition de scénarios classiques, finalement peu modifiés, même le fameux interdit aux moins de 12 ans, renforce cette idée de rite de passage. Continue à nous dire, Marion Hendrick, vous aimez vraiment toujours l'imaginaire fantastique?
Bien sûr. bien sûr. Et en même temps, je me rends compte que j'ai plus du tout le même rapport que quand j'étais adolescente, où il y avait quelque chose de quasi vital. Maintenant, c'est vrai que, alors je sais pas si malheureusement, mais c'est un rapport plus distancié qui procure un autre plaisir. Il y a un plaisir très intellectuel maintenant, ou d'évasion, alors que je me souviens que justement quand j'étais adolescent, c'était le refuge, enfin c'était le. Il y avait quelque chose de nécessaire à lire ces romans et à les partager avec mes amis. C'était, d'ailleurs, je le mets un peu à la fin. Quand je remets, enfin voilà, ce livre, je l'ai dédié à ceux qui ont partagé cette adolescence avec moi. Et c'est vrai que ça a permis de rediscuter avec. J'ai toujours les amis que j'avais à 15 ans. Et ça nous a permis de replonger un peu dans cette époque-là et c'était vraiment agréable.
Si juste, c'était vraiment une coïncidence, hein, c'était pas fait exprès. Dans quelques minutes, je vais présenter Samantha Bailly, le coup de cœur des Imaginales 2013, et son dernier roman, Ce qui nous lie, dont je dirai quelques extraits, met en exergue une citation d'un psychiatre. Bon, il se trouve qu'il est peu sympathique et que ses points de vue sont plus que discutables. Je pense qu'en partie au moins, même si c'est un homme intéressant sur sa réflexion, son aspect peu soignant et peu compatissant, nous partageons le même avis. Mais quand même, Jacques Lacan, la citation quand même extraordinaire, je trouve que c'est une assez jolie clôture et un passage de témoin entre la théoricienne de la santé, du soin, et puis aussi l'amateur de fantastique et d'imaginaire que vous êtes, Marion Hendrick. Samantha Bailly, en exergue, a choisi, cette jeune fille de 24 ans tout à fait passionnante, ce qui a été refusé dans l'ordre symbolique ressurgit dans le réel. Vous voyez que finalement, On parle des mêmes choses entre les théoriciennes passionnées par l'imaginaire et les écrivains d'imaginaire. Le témoin est passé, même si le passeur de témoin est discutable. La citation quand même méritait d'être lue. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aux Imaginales, Marion Hendrick. Bah, je craignais d'avoir un petit traité ennuyeux au début. J'ai bien fait de l'ouvrir et de le lire. Je vous conseille vraiment, si vous êtes amateur, vous allez y trouver plein de choses et vous verrez, c'est extrêmement agréable à lire. Marion Hendrick, petit traité d'horreur fantastique à l'usage des adultes qui soignent des ados, je vous rassure, c'est aussi un autre usage et c'est un très joli essai, très agréable à lire et plein de la même passion que nous avons pour l'imaginaire et le fantastique. Merci.
Merci.
Vous pouvez donc retrouver Marion dans un instant sous la bulle du livre où elle dédicacera très volontiers ce petit ouvrage. Merci.
Allez, au travail. Merci.